on en parle.
On s'y perd un peu sur le marché de l'énergie. Alors, comment retrouver ses repères? On en parle avec Hélène, conseillère EDF. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Est-ce que toutes les électricités se valent?
Et non, la différence, c'est le service. Nos clients nous le disent en nous plaçant sur la première marche du podium de la relation client. Avec l'application EDF et moi, des prix compétitifs et nos 5000 conseillers tous en France, nous les aidons à faire de vraies économies.
Merci Hélène.
Plus d'infos sur edf.fr/nos offres. Étude Bearing Point et Kantar, catégorie entreprise de service. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Bon réveil sur Radio Classique, je vous le redis, il est toujours 7h.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Lénaïque Monnier pour le journal. Bonjour Lénaïque.
Bonjour David, bonjour à tous. Si ce sont les socialistes, ce sera sans nous. Bruno Retailleau pense déjà à l'après Bayrou. Le vote de confiance a lieu cet après-midi à l'Assemblée. Et sauf surprise, le Premier ministre et son gouvernement devraient bien tomber. Après des années d'austérité, la Grèce relève la tête. Les familles, la classe moyenne et les jeunes verront leurs impôts baisser cette année. Explication dans cette édition. Et puis nous vous raconterons l'histoire d'une gigantesque escroquerie. Écrit aux manuscrits anciens, 900 millions d'euros évaporés, des milliers de plaignants qui ont rendez-vous aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris.
Après le journal, l'éditorial de François Vidal, suivi de l'invité des Voix de l'économie, Audrey Richard, présidente de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Et à la une, donc, François Bayrou joue son poste de Premier ministre à 15h au Palais Bourbon.
Sauf coup de théâtre, en l'absence de majorité, le Premier ministre devrait tomber et avec lui son gouvernement. On se prépare au désormais rituel des passations. On défait les cartons. Ça, ce sera d'ici quelques jours. Mais justement, qui va entrer au prochain gouvernement? Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, patron des LR, a voulu rassurer ses troupes hier. Victoire fort, aucun blanc-seing pour la Macronie.
Les militants sont en tout cas sûrs d'une chose. La participation au gouvernement a redonné des couleurs à leur parti. Georgette est militante dans le Finistère et a vu les adhésions bondir cette année.
Le double, ils sont revenus. Et on commence à récupérer les militants qui étaient partis au RN et qui reviennent chez nous.
Idéalement, ils aimeraient donc rester aux affaires même si le gouvernement tombe, mais pas à n'importe quel prix.
On y sera si le Parti Socialiste n'y est pas.
Les militants ne veulent pas entendre parler des socialistes à Matignon.
Si c'est un gouvernement de gauche, non.
Il faut donc que LR impose ses conditions.
Un budget en équilibre avec des économies et des dépenses ciblées. Et pas créer des nouveaux impôts et d'augmenter la dette.
Les adhérents ne veulent surtout pas qu'il y ait de confusion. C'est le président et le président seul qui est responsable de cette situation, Nicolas.
Franchement, on est à 21 mois des présidentielles. On n'en est plus à trouver des coalitions. J'ai peur de l'obstination de Macron, ce qui va reconduire à 9 mois plus tard, la même déchéance.
Personne ici n'exclut de retourner aux urnes plus vite que prévu dans l'hypothèse d'une dissolution. L'enjeu pour les LR, c'est l'unité du mouvement et de préserver la popularité retrouvée.
Et on vient de l'entendre dans ce reportage pour Radio Classique de Victoire Fort. Hors de question d'accepter un Premier ministre socialiste, les militants LR alignés donc sur leur chef, Bruno Retailleau, une prise de position de la droite qui irrite dans le bloc central, à l'image de la députée Renaissance Prisca Thévenoud.
Je trouve ça assez étonnant de la part de Monsieur Retailleau de nous expliquer encore aujourd'hui qu'il ferait à condition que, alors qu'on sait très bien que ces conditions, elles sautent quand même très rapidement. Souvenons-nous, il y a à peu près un an, ce même Monsieur Retailleau vociférait contre la Macronie en expliquant que au grand jamais, on ne travaillerait ensemble. Et finalement, aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur. Je pense qu'à un moment, il faut en finir avec les conditions et les menaces. Il va falloir accepter de travailler tous ensemble. Sans regarder la LFI ou le Rassemblement National, il y a de quoi faire. Nous avons été élus, certains sont nommés, comme Monsieur Retailleau, non pas pour mettre des conditions, mais pour se mettre autour de la table et travailler.
Grande incertitude donc cette semaine qui sera également une semaine sociale avec ce mouvement de contestation. Bloquons tout. Face à ce nouveau saut dans l'inconnu, les agences de notation pourraient faire basculer la France en catégorie simple A cet automne. Première échéance vendredi prochain avec l'agence Fitch.
Et en Grèce, on vit la situation inverse au plan budgétaire.
Oui, après des années d'austérité, l'heure est désormais venue de soutenir la classe moyenne, la famille grecque et les jeunes. La Grèce, longtemps mouton noir de l'Union européenne, s'apprête donc à alléger ses impôts. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis peut se le permettre. Pourquoi ? Explication d'Olivier Marty, spécialiste de l'économie et de la finance européenne.
depuis 2019, depuis l'arrivée du gouvernement conservateur, il y a quand même eu un certain nombre de réformes qui ont soutenu la croissance, fait baisser les déficits, en faisant des réformes sur le cadre fiscal, en faisant des réformes sur le marché du travail, en faisant revenir un certain nombre de talents en Grèce. Ça a permis d'assainir la situation macroéconomique. Ça a même permis à la Grèce d'obtenir une situation d'excédent de ses comptes publics, fait baisser le chômage et surtout fait baisser la dette. Donc elle est en situation de pouvoir baisser les impôts dans la perspective également, bien entendu, des élections de 2027. Même s'il y a encore beaucoup de choses à faire pour lutter contre la corruption, pour avoir une administration publique qui soit plus efficace.
Un propos recueilli par Rémi Pfister pour Radio Classique. C'est la plus grande frappe aérienne de la Russie depuis la guerre. Plus de 800 drones en une seule attaque. Le raid lancé par la Russie dans la nuit de samedi à dimanche sur Kiev est une démonstration de force. Et Moscou affirme qu'il plus est pouvoir lancer 2000 drones en une seule fois. Signe d'une capacité de production en forte hausse. Explication de l'expert militaire, le général Dominique Trinquant.
La Russie a toujours eu une industrie plus importante que l'Ukraine, en volume j'entends, hein, pas en qualité. Et aujourd'hui, comme elle a orienté toute son industrie vers la fabrication d'armements, naturellement, elle a, j'allais dire, un cran d'avance. Je voudrais ajouter que la Russie dispose aussi de la possibilité de faire venir beaucoup de travailleurs d'Asie centrale, d'Asie, d'Afrique pour venir remplacer dans les usines les gens qui sont partis pour aller combattre. Et donc ça, c'est un avantage certain.
Le président américain Donald Trump, qui s'est déclaré d'ailleurs cette nuit prêt à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, sans donner davantage de précisions. Il a également annoncé avoir envoyé un dernier avertissement au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza. Le mouvement terroriste assure être disponible pour s'asseoir immédiatement à la table des négociations. C'est une avancée, a déclaré via un communiqué le Forum des familles d'otages. Selon l'armée israélienne, 47 captifs restent retenus dans la bande de Gaza, dont 27 présumés morts.
Vous écoutez Radio Classique, il est 7h06. C'est un procès hors norme qui s'ouvre ce lundi au tribunal correctionnel de Paris, celui du Madoff des livres.
Oui, nous vous racontons ce matin cette histoire incroyable. Gérard L'Héritier proposait, via sa société Aristophile, d'investir dans des manuscrits de grands auteurs avec des taux d'intérêt très avantageux. C'était en fait une pyramide de Ponzi. Conclusion, 6000 parties civiles, 1 milliard d'euros de préjudice. Le récit d'Héloïse Weiss.
Des autographes, des textes et des lettres rédigées de la main même de Céline, de Balzac ou encore de Gauguin. Ces trésors pouvaient être achetés en intégralité ou à plusieurs. Techniciens et vendeurs ont donc investi 10 000, 40 000 et jusqu'à 750 000 euros pour devenir propriétaires de ces manuscrits, avec une promesse séduisante de la part de la société, un taux de rendement de 8 à 9% par an et un possible rachat à un bon prix au bout de 5 ans par Aristophile. Sauf que ce système cachait en réalité une pyramide de Ponzi, une fraude qui rémunère les investissements des clients avec les fonds procurés par les nouveaux entrants. Quant aux manuscrits, leur valeur était en fait surestimée, comme cette lettre de Napoléon Bonaparte à Joséphine. Valorisée 1,2 million par la société, elle avait été adjugée aux enchères à moins de 300 000 euros. Au total, le fonds d'Aristophile contenait plus de 130 000 documents. Créée en 2003, la société avait finalement fait faillite en 2016.
L'incroyable récit d'Héloïse Weiss pour Radio Classique. Le procès, David, va durer un mois.
Merci Lénaïque. On vous retrouve à 8h pour un autre journal. À suivre l'éditorial avec les Échos. François Vidal fait le bilan économique de 9 mois de gouvernement Bayrou. Radio Classique, 7h.